Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Si vous nous rejoignez seulement, vous avez la parole et vous pouvez interroger dès maintenant et en direct l'invité que nous recevons jusqu'à 11h ce matin. Vous le connaissez bien, il était habitué des émissions notamment de Jean-Marc Morandini, le docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, qui ne nous parle pas spécifiquement de régime ce matin amincissant, amaigrissant, mais qui nous donne, dans un livre aux éditions First, pour les nuls, des conseils et des recettes pour mieux manger. Alors le mieux manger, on va tenter de définir cela avec lui, notamment sans aliments, bon pour la santé, le point sur la qualité des produits que nous consommons et que nous achetons régulièrement aussi dans les grandes surfaces, la voie à suivre pour une bonne alimentation en phase avec nos vies et parfois nos pathologies. Suivez le guide, ma chère Julie, vous pouvez l'interroger, je le disais.
En direct au Standard d'Europe 1, le 39-21 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
On est ensemble jusqu'à 11h.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
C'était en 1978. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Wendy. Cohen. Bonjour Julie.
Bonjour.
40 ans ont passé depuis cette chanson visionnaire d'Alain Souchon. Est-ce qu'on mange encore trop en France? Trop ou pas bien en fait?
On mange surtout pas d'une bonne façon et on mange probablement un peu trop, mais c'est pas lié à nous-mêmes. C'est lié au fait que depuis l'invention de la publicité, on reçoit énormément de stimuli externes qui font que notre cerveau enregistre ces stimuli et que finalement on se retrouve en situation de tentation permanente. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, le grignotage ou la collation est devenu une habitude française. Avant, c'était une exception. Aujourd'hui, le 4-5 heures de l'après-midi est devenu quasiment un rite dans les entreprises, à la maison.
On s'est fait un tea time français, quoi. Hein.
C'est ça, ouais, mais il n'est pas forcément fait de la façon anglaise.
Pas si équilibré. Concrètement, et vous allez dessiner tout ça jusqu'à 11 heures pour nous et pour nos auditeurs, une bonne alimentation, qu'est-ce que c'est, Jean-Michel Cohen?
Moi, aujourd'hui, maintenant, pour plein de raisons, je mettrais la variation des aliments.
Oui.
La première raison, c'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un certain nombre de nutriments. Ce qu'on appelle les nutriments, c'est tous les petits composés chimiques dont on a besoin pour que notre corps vive. Ça veut dire des vitamines, des oligo-éléments, des protéines, etc. Mmh. Donc, il faut utiliser beaucoup d'aliments pour avoir ça. Et la deuxième chose, c'est que je travaille beaucoup sur les sujets d'infestation alimentaire. Et en fait, on se rend compte que comme l'infestation alimentaire, quand
c'est
je parle des résidus de pesticides, des perturbateurs endocriniens, etc., on se rend compte que la meilleure façon de passer au travers de tout ça, c'est de varier les aliments. Mmh. Ça veut dire que plus vous aurez un échantillon d'aliments différents, et plus vous avez de chances de diluer les doses de produits qui pourraient vous être toxiques. Donc finalement, la variation des aliments, c'est la chose essentielle à l'heure actuelle.
D'accord, ça veut dire variation et variété des aliments par rapport aussi à nos besoins et à la manière dont on se connaît. On sait qu'on peut avoir des petites fringales si on ne mange pas assez, justement, c'est ce que vous nous direz. Alors, est-ce qu'on a des proportions caloriques qu'il faut connaître quand même?
Alors, on a des proportions caloriques. Je reviens juste sur ce que vous venez de dire. Une récente étude britannique a montré que certaines personnes avaient tendance à manger plus uniquement parce qu'elles cherchaient de façon spontanée à compenser des déficits. Au point que ces personnes ont recommandé, notamment à une partie de la population, d'utiliser régulièrement, ce qu'on ne faisait pas auparavant, des compléments alimentaires sous forme de vitamines. Car maintenant, on sait que l'excès en vitamines, quand on en prend soi-même, et pas aussi dangereux que ce qu'on pensait, ils ont recommandé de faire ça. Quant aux proportions...
C'est un petit coup de mou, quoi. Petit coup
c'est
et
ça.
Donc,
Et les proportions nutritionnelles, aujourd'hui, on a des règles qui sont élaborées par un organisme qui s'appelle le Plan Nutrition National Santé, qui dit qu'on doit manger 50% sous forme de sucre lent, 35% sous forme de lipides et 15% sous forme de protéines. Sauf qu'on a remarqué que cette proportion, elle avait tendance à faire grossir les gens. Et donc, on est en train de ramener la proportion des sucres lents entre 40 et 45%. Mais pour un consommateur, c'est vachement dur. Parce que vous n'êtes pas à regarder dans votre assiette ce qu'il y a comme glucides, comme lipides, comme protéines.
C'est ce que j'allais vous dire. Votre livre, il est passionnant parce qu'autour de 400-500 pages, on en a un petit peu pour chacun, pour sa personnalité, etc. Simplement, vous nous parlez de 20 grammes par-ci, 30 grammes par-là, etc. On ne se promène pas avec une balance sur soi toute la journée. Et puis, il y a cette idée de la contrainte. On a quand même envie de mieux manger, mais en faisant pas tout à fait attention. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'esprit un peu français, quoi.
Alors, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'est distancé par rapport aux aliments. Ça veut dire qu'auparavant, on faisait nos courses, on allait au marché, on regardait les aliments. On les achetait, on connaissait le poids d'ailleurs parce qu'on voulait peser. Aujourd'hui, il y a une distance entre le consommateur et l'aliment. Cette distance, elle est mise deux fois. une première fois parce que l'aliment, il est préparé. Donc, vous allez acheter, je ne sais pas, des petits manchons de poulet panés en supermarché. Oui. Bon, déjà, ce n'est pas le manchon de poulet que vous connaissez. Et puis, la deuxième chose, c'est l'emballage. Donc, finalement, le lien entre le consommateur et l'aliment, il s'est vraiment distendu, ce qui fait qu'il y a de la méfiance qui s'est installée. Donc, les gens mangent maintenant, non plus en fonction de ce qu'ils veulent manger, mais en fonction de ce qu'ils ont reçu comme stimulus. C'est-à-dire, on vous a dit, vous avez vu une publicité terrible sur telle marque de gnocchi, vous allez aller les acheter. Mais peut-être que vous n'aviez pas envie de les manger, et peut-être que vous n'aviez pas envie qu'ils soient préparés comme ça. Donc, finalement, l'industrialisation de l'alimentation, ça a été dans un mauvais sens pour le consommateur. Et on essaye de faire revenir avec difficulté, je le reconnais, les gens à la préparation de la cuisine et à la cuisine, parce que c'est la seule façon aujourd'hui d'arriver à avoir une nourriture saine. Parce que vous avez appris à manger, vous Wendy, vous Julie, vous avez appris à manger dans les assiettes de vos parents. C'était vos parents qui vous faisaient à manger, puis vous appreniez combien on mettait de frites, combien on mettait de pommes de terre, combien on mettait de steak, etc.
Bien sûr, mais là où vous mettez les limites, c'est que mieux manger, c'est pas forcément exclure de son alimentation des produits préparés.
Parce non, qu'il y en a surtout qui, pas, des plats préparés, surtout pas. On vit dans une société moderne, il faut apprendre à la manipuler. Mmh. Donc moi, j'ai toujours dit, depuis que j'exerce, que supprimer le plaisir et entraîner trop de contraintes dans une alimentation ou dans un régime était une grande erreur, parce que vous mettez le consommateur dans une situation de crispation qui fait que finalement, il mange en fonction de son stress. Donc il faut apprendre aux gens. Et c'est pour ça que la raison pour laquelle j'écris autant de livres, et je m'en rends compte parce que je fais beaucoup de réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, etc., c'est que les gens sont avides de connaissances. Ils veulent savoir et ils veulent maîtriser. Et donc, il faut leur donner justement les outils pour apprendre tout ça.
Oui, et puis on va voir avec vous justement quels sont les aliments amis, parce qu'il y en a beaucoup, oui, qu'on peut vraiment favoriser dans notre quotidien. Et puis quand même des plats à éviter largement, des associations aussi qui sont à connaître. Jean-Michel Cohen, mieux manger, c'est pas forcément bien manger, c'est mieux manger les amis, pour les nuls. Et c'est un livre passionnant aux éditions Les Nuls avec le docteur Jean-Michel Cohen jusqu'à 11h.
On retrouve Wendy Bouchard et son invité, le nutritionniste Jean-Michel Cohen, qui nous explique jusqu'à 11h comment mieux manger sans se priver, mais de la manière la plus saine, la plus naturelle possible.
C'est pas aux éditions Les Nuls, son livre, c'est aux éditions First, mais pour les
nuls.
Ah
oui, la collection des nuls, c'est chez First, Wendy Bouchard.
Ouais, non, excusez-moi. Vous avez écrit bien des ouvrages, docteur Cohen, notamment avec votre épouse, il y a quelques années, un livre sur le bien manger en famille. Alors, c'est pas simplement le bien, mais le mieux manger que vous recommandez aujourd'hui, avec des aliments à privilégier. Et là, on se dit qu'avec certains aliments, et on va les citer, on ne se fait que du bien. Je pense au pain complet, voilà, qui peut être le pain quotidien.
Alors, il faut vraiment faire une... Là, quand on parle de produits complets, je voudrais beaucoup insister sur le fait que c'est vraiment une des rares catégories où le bio est quasiment indispensable.
D'accord.
Parce que quand vous prenez un produit complet, ça signifie qu'en fait, vous avez utilisé l'écorce de l'amande pour fabriquer ce pain complet. Donc, vous avez gardé les fibres. Et c'est en général sur l'écorce qu'on trouve tous les produits phytosanitaires qui sont dangereux. Donc, quand vous achetez du pain complet, vraiment, c'est important d'acheter du pain bio.
Il y a des aliments dont on va parler qui couvrent aussi nos besoins quotidiens en matière pour une alimentation saine. Et il y a de très bons aliments, le basilic, propriété antioxydante importante, la betterave rouge, riche en sodium, magnésium et calcium, la banane et même le beurre. Alors ça, j'étais surprise c'est quelque chose d'avéré que le beurre cru n'est pas mauvais pour la santé. Mais en revanche, le beurre cuit...
Alors, le beurre cuit, les gens ont toujours pensé que c'était une catastrophe.
Oui.
En fait, quand le beurre noircit, c'est simplement la réaction de Maillard. Ça veut dire que c'est un changement de couleur du beurre, mais il n'est absolument pas toxique. Donc, on peut manger une raie au beurre noir.
D'accord.
Même si le beurre est devenu noir, ça s'appelle une réaction de Maillard. Et ce n'est pas un signal de toxicité.
D'accord.
Même quand il a fumé, ce n'est pas si grave que ça. Donc, on est parti sur un mauvais principe. Je ne dis pas qu'il faut en abuser, parce que le beurre est riche en acides gras saturés, mais on a découvert récemment qu'à l'intérieur des acides gras saturés, certains des acides gras saturés qu'on considère comme mauvais pour la santé parce qu'ils bouchent les artères, à l'intérieur du beurre, on en avait certains qui étaient intéressants pour le corps. Et surtout, c'est un vrai apport en vitamine A. Et aujourd'hui, on est en hiver, les gens ont la peau sèche, ils peuvent avoir des difficultés de vision au crépuscule. En fait, il faut rajouter de la vitamine A. Donc le beurre
Donc,
est
le beurre.
Une très bonne chose.
Très bien. Et là, vous nous dites, attention, dans la catégorie mieux manger, attention au beurre et aux crèmes allégées.
Oui, alors j'aime pas les crèmes allégées pour deux raisons. La première, c'est parce que, vous savez, on a beaucoup parlé des intolérances et des susceptibilités au gluten. Et en fait, la réalité, c'est qu'on en a mis partout. Par exemple, quand vous utilisez un produit allégé, vous mettez de l'amidon transformé pour lui donner de la consistance. Ben, en réalité, vous avez du gluten. Ça a été la même chose pour le pain. La baguette tradition que les Français adorent, les gens ne savent pas que dans une baguette de supermarché, vous avez 14 additifs. Donc, c'est pas une très bonne chose. Mais la baguette tradition, c'est une des rares baguettes où on a le droit de rajouter du gluten pour pour aérer le pain. Et donc, on adore ça. Finalement, cette susceptibilité au gluten est arrivée parce qu'on a mis du gluten un peu partout dans les aliments.
Ah, c'est pour ça. Bah là, si vous êtes intolérant au gluten, par exemple, n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Et si vous voulez savoir, pour vous, ce qu'il faut pour être en forme, mieux manger, eh bien vous n'hésitez pas à échanger avec notre invité Jean-Michel Cohen. Vous nous aidez aussi à ne pas nous perdre dans les rayons des supermarchés. Il y a à peu près 20 000 références, est-ce que vous rappelez comment on choisit en effet le bon yaourt dans 150 offres diverses.
Dans un mur de yaourt.
Dans un mur de yaourt, ça c'est terrible. Quand on parlait de la publicité et de l'appétence, on est là-dedans.
Non, mais l'industrie agroalimentaire, elle avait découvert au bout d'un moment que plus il y avait une variété d'aliments dans une catégorie de produits, et oui, plus on risquait d'en acheter. Donc c'est vrai que vous allez commencer par prendre le yaourt simple, nature, et puis vous allez finir par prendre celui qui est aromatisé, puis un jour vous découvrirez celui dans lequel il y a de la crème à l'intérieur, qui est certainement meilleur au goût parce qu'il est plus onctueux. Ah. Et en réalité,
moi,
aujourd'hui, quand
vous faites...
Moi,
je prends toujours le même. Hein. Quand... Et même, je cherche les plus nature et on les trouve plus.
Ça va, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez.
Si on trouve des natures.
Oui, d'accord, ils sont il faut les chercher.
Julie a raison.
Moi, j'ai du mal à les trouver.
Oui, ils sont en général par terre, en bas, il faut se baisser.
C'est ça, ils sont au rebut. Quoi.
Bah, pourquoi ? Parce que ce sont des produits qui sont peu chers. Sur les, c'est des produits d'appel en général. Et donc, il y a plus de valeur ajoutée sur les autres yaourts. C'est pour ça que je vous dis qu'on est conditionné par la vente de l'industrie agroalimentaire qui cherche à faire du profit. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et la deuxième chose, c'est qu'en principe, on devrait arriver dans un supermarché avec une liste de courses et essayer d'éviter tous les pièges du marketing. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans un supermarché, vous avez d'abord le rayon de boulangerie en général avec les petits ventilateurs qui vont dégager l'odeur de pain qui vont vous attirer à manger. Puis on sait que dans votre comportement, on a intérêt à mettre d'autres produits avant, du cosmétique, avant que vous arriviez aux aliments. Et puis dans les aliments, on mettra d'abord les produits apéritifs pour vous stimuler votre appétit. Il y a quand même toute une conduite d'utilisation du cerveau du consommateur pour le faire acheter un peu plus.
Et là, vous avez une philosophie sur le pain dit industriel, pour le coup.
C'est vraiment, ça a dénaturé ce qu'était le pain. Et gloire aux boulangers français.
Mais ce n'est pas le même pain, la baguette qu'on achète en supermarché,
tout,
la baguette.
Pas du tout. Mais
dans l'essence même. Après, dans le moulage, dans la manière dont on le façonne, dont on le pétrit, d'accord. Mais dans les qualités nutritives.
Absolument pas. Vous avez deux problèmes dans les pains industriels aujourd'hui. C'est que pour les rendre moelleux, agréables à consommer et agréables à conserver, vous êtes obligé de rajouter un peu de graisse. Ah. Donc, il y a de la graisse, alors que dans le pain du boulanger, vous avez simplement de la farine, du levain et du sel.
C'est-à-dire
et de l'eau.
Qu'ils mettent de l'huile dans le pain industriel ?
Oui, quand vous regardez d'ailleurs les emballages, vous allez voir matière grasse X grammes. La deuxième chose, c'est pour vous rendre un peu addict, on va rajouter un peu de sucre également pour le rendre plus agréable à la consommation. Et donc, vous allez renforcer votre addiction au sucre. Et la troisième chose, c'est pour le rendre moelleux, on met du propionate de calcium, ce qui va permettre de le rendre un peu mou et de dire que c'est un pain anglais. Et dernière chose, on mettra un conservateur pour qu'on vous dise que vous puissiez le conserver plus longtemps. Donc en fait, ces pains industriels... Et le dernier problème, c'est que les rations que vous prenez de ces pains, elles n'ont rien à voir avec ce que vous mangez en baguette. Par exemple, quand vous prenez une grande tranche de pain industriel, elle fait environ 45 à 50 grammes, c'est-à-dire presque l'équivalent d'un quart de baguette longue. Les gens vont se taper deux tranches de pain en se disant « ouais, je fais attention ». En réalité, ils se sont tapés un quart de baguette. Où est le bénéfice ? Celui de ne pas être descendu chez le boulanger ou de ne pas avoir utilisé le congélateur pour congeler du pain. Donc, tout ça, c'est la transformation industrielle de la nourriture qui nous a rendu service après la guerre parce que bon, il fallait renourrir les gens, etc. Mais qui aujourd'hui, dans le sens d'une abondance de consommation, il y a un mouvement d'ailleurs général contre ça, contre le gaspillage, contre l'excès de consommation. Ben, ça ne nous a pas rendu service.
La rééducation au mieux manger, c'est l'ouvrage de Jean-Michel Cohen aujourd'hui. 500 pages pour vous prendre par la main et pour vous aider aussi à faire les meilleurs choix. On fait le tour de la question. N'hésitez pas à réagir. Au standard, on vous écoute jusqu'à 11h, Julie.
39 21, à tout de suite. Dîner en paix avec Émilie.
Et mieux manger, c'est le programme qu'on vous offre jusqu'à 11h avec le docteur Jean-Michel Cohen qui publie aux éditions First un livre de 500 pages pour les nuls, tout ce qu'il faut savoir pour une meilleure alimentation et une meilleure santé. Je dis ça avec le sourire, mais évidemment c'est très étudié, il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de détails, c'est passionnant. Puis il y a aussi pas mal de témoignages, vous voyez notamment une patiente arrivée des États-Unis et vous avez du mal à la reconnaître. Enfin, elle a pris un peu de poids, mais surtout, elle qui avait une si belle peau, qui était assez resplendissante, elle a changé en quelques mois.
Oui, alors, des fois, je m'amuse à critiquer ça et je dis c'est un phénomène de bobos parisiens, l'histoire de la bonne nourriture. En fait, c'est le phénomène des gens qui gagnent de l'argent et qui peuvent s'y intéresser. Mais en l'occurrence, quand vous décalez votre nourriture et quand vous allez dans un monde totalement industriel comme le monde américain, sans vous en rendre compte, finalement, vous consommez complètement différemment. Oui. Et vous revenez avec des examens biologiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a en France. Ce qui veut dire que cette alimentation industrielle, cette nourriture de rue, elle n'est pas bonne pour la santé. J'ai fait récemment une vidéo sur les tacos. Alors, j'en dis pas du mal.
Les tacos, vous nous expliquez ce que c'est.
Les tacos, c'est une espèce de crêpe mexicaine. Oui. Au Mexique, on met dedans à l'intérieur des haricots, par exemple. Et vous savez qu'on réhabilite aujourd'hui les légumineuses, notamment en France.
Ça, c'est très bon pour la santé. Hein.
Voilà,
les
on met
fèves,
des
les
œufs.
Lentilles. Oui,
ouais, on met des œufs, on met un peu de sauce. Alors qu'en fait, ici, on a dénaturé le produit. Vous trouvez une espèce de préparation fromagère un peu pourrie. Oui. Vous avez de la viande hachée, on ne sait pas l'origine de la viande hachée. Vous avez des légumineuses, mais souvent, c'est du riz. Et cette nourriture déformée, finalement, elle est pas bonne pour notre santé. Mais quand vous dites ça, vous avez toujours un peu de peine de dire ça parce que d'un côté, c'est pas cher et de l'autre côté, c'est vrai que c'est vite préparé et qu'on a un problème la plupart du temps sur le repas du midi tous.
Oui, et c'est ce qui m'amène à souligner un fait, à une philosophie chez vous, Jean-Michel Cohen, c'est que vous martelez qu'il ne faut jamais négliger la qualité. Manger mal mais peu, dites-vous, est parfois équivalent en termes d'apport calorique à manger des assiettes équilibrées plus volumineuses. C'est-à-dire que, et on connaît tous autour de nous des hommes, des femmes qui disent « mais je ne comprends pas pourquoi je grossis parce que je ne mange pas ou je ne mange pas beaucoup ». C'est parce qu'ils mangent mal, justement.
Alors, ça s'appelle la densité calorique. Quand je prescris un régime, il y a deux phrases que j'entends tout le temps. C'est « je ne vais jamais maigrir avec tout ce que vous me donnez à manger ». Puis par la suite, quand elles ont maigri, c'est « je ne comprends pas comment je maigris alors que je mange plus qu'auparavant ». C'est que j'ai simplement changé la nature des aliments. C'est-à-dire que j'ai augmenté le volume sur les aliments qui étaient peu riches en calories, je l'ai diminué sur celui qui était riche en calories. C'est un peu la même chose quand vous avez affaire à la nourriture de rue. Quand vous allez acheter un sandwich, il va y avoir une vraie différence entre un sandwich fait avec un tiers de baguette, avec des protéines à l'intérieur et des feuilles de salade, avec celui qui va comporter de la mayonnaise à l'intérieur. Alors c'est un peu dégueulasse d'aller dans la rue, déshabiller le sandwich, le couper en deux et enlever la mayonnaise. Mais quand même, ça va se jouer là-dessus. Et c'est la même chose quand vous allez dans un fast-food. Ça a fait hurler des tas de gens qui ne connaissent pas la nourriture. J'ai toujours expliqué qu'on pouvait manger correctement dans un fast-food. Ça voulait simplement dire vous êtes obligé de faire une sélection des produits. D'abord, pas vous faire tenter par les produits que vous n'avez pas envie de prendre et finir par les desserts extrêmement sucrés qu'on vous propose. Mmh. Et à l'intérieur des produits qu'on vous donne dans les sandwichs, il y en a certains qui sont corrects et d'autres qui ne sont pas corrects.
Mais comment on mange mieux dans un fast-food, Jean-Michel Cohen? Parce que vous nous dites aussi dans ce livre que, par exemple, toutes les salades qui sont déjà préparées,
elles
qui sont
pourries.
Hyper huilées pour le coup, sont peut-être parfois plus grasses qu'un chicken McNuggets. Mais
en fait, vous êtes obligé de prendre un sandwich simple, c'est-à-dire vraiment une version simple du sandwich, et de sortir dans la rue, aller chez un épicier pour aller acheter un fruit pour avoir des fibres. Sauf que par fainéantise, vous allez prendre ce qu'on va vous proposer, c'est-à-dire le sandwich, la boisson sucrée et le dessert sucré, parce qu'il y aura une promotion autour de ça. C'est pour ça que le consommateur, il a un bulletin de vote, et à un moment donné, c'est lui qui doit sanctionner l'industriel. On l'a vu avec l'huile de palme. Quand en 2006, on a lancé l'alerte avec Patrick Serogue, on a parlé de l'huile de palme. Les gens s'y sont intéressés. Ils ont arrêté d'acheter des produits à l'huile de palme. Les industriels n'en ont plus fabriqué parce que ça ne se vendait plus. C'est un peu la même chose. Vous délaissez certains produits et à partir de ce moment-là, l'industriel, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Donc, il va vendre le bon produit.
Oui, et je reviens à l'huile parce qu'on est dans des séries de contre-intuition. Vous dites au resto, je vais faire light, je prends une grosse salade. Par exemple, une grosse salade César ou une grosse salade niçoise, peu importe, avec, pour le coup, des produits qui ont l'air frais, à peu près bien préparés, mais une dose de vinaigrette, voire de mayo, etc. Mais qui tue le principe même de « je veux manger plus sain », c'est ça que vous dites?
Oui. C'est-à-dire quand vous dites, par exemple, il y a plein de gens qui vont prendre une salade le midi. Alors, il y a deux types de salades, celle où il n'y a rien à l'intérieur, parce que ce qui coûte cher dans une salade, c'est les protéines. On va vous vendre une salade au saumon fumé, puis il n'y a pas de saumon, il y a beaucoup de feuilles de salade, donc vous aurez faim à 4 heures de l'après-midi. Il y a ceux qui vont commander une salade qui va baigner dans l'huile, c'est pour ça que je recommande aux gens de demander, et ça se fait de plus en plus dans les restaurants,
côté,
la vinaigrette à côté. Et à côté de ça, vous allez vous interdire un sandwich. Le sandwich, il va vous rassasier, il va avoir une proportion entre les protéines et les sucres lents qui va être de bonne qualité, mais c'est devenu un tabou. Ça veut dire le pain égale tabou, c'est un vieil héritage des régimes sans sucre d'il y a 20 ans, donc on ne va pas prendre le sandwich. Et pourtant, si vous prenez le sandwich, vous n'aurez pas faim à 4 heures. Les gamins qui prennent des kebabs, c'est... En fait, pourquoi ils prennent les kebabs? C'est parce qu'ils ont peur d'avoir faim dans l'après-midi. Le produit n'est pas très bon, mais en tout cas, ils ont la satiété.
Ouais.
Et ce qu'ils cherchent, c'est quand même la satiété aussi.
Le pain baguette ne fait pas grossir à condition de qu'on rationalise sa consommation.
Pas du tout. Quand vous prenez 80 grammes de pain ou 60 grammes de pain, c'est-à-dire un tiers ou un quart de baguette, vous arrivez à 200 calories, ce qui n'est pas énorme pour un produit. C'est l'équivalent de 200 grammes de pâtes ou 200 grammes de pommes de terre. Ce n'est pas énorme. Quand vous mettez des protéines à l'intérieur et des feuilles de salade, vous avez l'équivalent d'un petit steak haché avec une assiette de pâtes et 3-4 légumes.
Donc il vaut mieux manger un sandwich qu'une salade qui est belle
dans
l'huile. Bien
sûr, mais à chaque fois, il va falloir finir par des fibres pour améliorer la digestion. Je rebondis juste sur l'huile pour donner une alerte. Mmh. Arrêtez à l'heure actuelle de faire la promotion de l'huile de coco. C'est une huile de très mauvaise qualité. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Oui. C'est une huile de très mauvaise qualité. Il y a une nutritionniste américaine qui a dit que c'était un poison et elle a raison. C'est une huile qui est très riche en acides gras saturés. C'est l'équivalent de l'huile de palme.
Et pourtant, on en trouve aussi dans les magasins dits bio. Hein.
Oui, on en trouve dans les magasins du bio. Mais là aussi, les magasins bio, maintenant, ils sont rentrés dans le marketing à fond. Ouais. Ça veut dire qu'ils savent qu'il faut faire vendre du bio. Le bio, c'est plus cher. Donc, ils y vont. Donc, ils poussent des produits un peu exotiques en abusant
sur... Il y a des tendances, comme l'aloe vera.
Sur l'absence de connaissances. Gardez l'huile de coco pour vos cheveux, pour vos cosmétiques.
Voilà, ou pour juste pour rêver à l'exotisme. A tout de suite avec Jean-Michel Cohen. Mieux manger pour les nuls aux éditions First. On va parler des régimes éventuellement sans viande, sans poisson. Qu'est-ce que vous pensez aussi du végétarisme? Parce que ça, c'est une tendance qui se développe aussi en France. N'hésitez pas à réagir, chers amis, au 39-21 avec Julie.
Jusqu'à 11h, le tour de la question sur le mieux manger. Wendy Bouchard.
Avec le docteur Cohen. Alors, je vous sens très à l'écoute, mais si vous voulez aussi échanger avec lui, c'est possible au Standard Europe 1, au 39-21. La recherche nous a prouvé que les aliments ne se contentent pas d'apporter du carburant à notre corps pour mieux fonctionner, Jean-Michel Cohen, mais qu'ils agissent aussi au niveau cellulaire, qu'ils permettent de prolonger la vie des cellules, d'autres de les réparer, mais également sur l'ADN pour freiner son altération. Mieux manger aussi, Jean-Michel, pour éviter cette sensation.
J'ai la dalle ce soir. Si tu sers mes envies, t'auras un pourboire. Je suis sûre de moi, tu vas découper. Pas le temps de m'asseoir. Besoin de protéines à n'en plus pouvoir. Tes feuilletés pour mieux te. Ah, la louca chair du moment qu'elle est tendre. Je peux le payer cher, mais je ne veux pas attendre.
Et j'ai vu qu'Oliven avait re...
Je la prendrai à point. Les L.I.J., ce trio de choc qui disserte aussi sur la dalle, sur les régimes, régime Doucan ou pas Doucan, mais le problème des régimes, Jean-Michel Cohen, qui vous affame parce qu'il crée un manque. Ben, beaucoup se sont cassés le nez en ne suivant pas stricto sensu ce régime ou en perdant tout le bénéfice de leur régime après l'avoir arrêté.
Il y a régulièrement des régimes miracles qui apparaissent. Ça veut dire que tous les 5 ans, mettons, on va avoir le fameux régime miracle qui est censé, en général, qui propose toujours la même recette. C'est facile à faire, vous aurez un résultat rapide et vous avez quelques stars qui l'ont fait et qui viennent accréditer ce régime.
En général, ça n'existe pas le régime miracle, on est bien
non,
d'accord.
Non, ça n'existe
sinon,
pas.
Sinon, votre métier n'existerait pas non plus.
Oui, c'est exactement ça. Puis si vous n'utilisez pas le temps où les gens font un régime pour leur réapprendre à manger, de toute façon, ils reprendront du poids.
Oui.
Là, c'est clair et net. Donc, parce que vous avez un comportement alimentaire, que vous allez le briser au moment du régime et qu'une fois le régime fini, vous avez toutes les chances de la Terre de reprendre ce comportement alimentaire et de reprendre du poids, ce qui va créer de la culpabilité, ce qui va créer également de la frustration et les gens repartent et en général à la hausse. C'est pour ça que depuis quelques temps, je suis absolument persuadé que ce qui fait la qualité d'un régime, c'est l'accompagnement. Ça veut dire c'est que vous avez quelqu'un à côté de vous en permanence qui vous soutient, qui vous entraîne, qui part au petit coup de mou, qui vous explique de temps en temps, et c'est en ça où les nouvelles technologies, elles nous ont aidé beaucoup. Je vous racontais tout à l'heure que je suis très impressionné par le succès que je rencontre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou Instagram. Pourquoi ? Parce que les gens sont avides de savoir. Mmh. Ils veulent savoir, ils veulent faire eux-mêmes. Et les meilleurs régimes sont souvent ceux qu'on a décidé soi-même. Ce n'est pas ceux qu'on s'est fait imposer. Donc j'ai beaucoup de mépris pour les gens qui considèrent que la nutrition, c'est juste affaire de menus et de recettes. Ce n'est pas du tout ça, la nutrition. C'est pour ça que dans ce livre, j'essaye d'expliquer aussi que la respiration, c'est important, l'activité physique, le moral, et même, j'irai même jusqu'à dire les cosmétiques, c'est-à-dire reprendre confiance en soi au travers de l'amour qu'on va se porter à soi-même, qui est quand même une nouvelle tendance.
Oui, c'est une vision d'ensemble de soi aussi, hein, le rapport au poids et au régime. Eliane va vous poser une question dans un instant, elle nous appelle de Châtillon. Docteur Cohen, vous qui proposez par exemple, parce que vous dites quand même il n'y a pas de régime sans effort, il faut la contrainte, il faut suivre, etc. Bon, si vous voulez faire un régime, c'est aussi dans le livre, il y a plusieurs régimes et il y a de la contrainte. Mais vous proposez par exemple, quand on n'a pas bien mangé, pour reprendre votre idée du mieux manger, des journées détox. En quoi ça consiste ?
En fait, ça s'appelle, c'est surtout le jeûne intermittent de 16 heures.
Jeûne intermittent,
voilà,
d'accord.
C'est, je ne sais pas si le terme jeûne est approprié parce que ça crée une confusion, mais c'est une abstinence alimentaire pendant 16 ans.
16 heures,
on a fait une expérience de 16 heures. Pendant 16 heures. On a fait une expérience et on a testé l'abstinence alimentaire sur 16 heures, 20 heures et 24 heures. Et on a observé que c'était sur la période de 16 heures qu'on avait les meilleurs résultats en termes de profil lipidique et en termes de perte de poids. Donc ça veut dire que de temps en temps, bah pendant 16 heures, on boit de l'eau, du thé, du café, des infusions. Mais alors, ce jeûne de 16 heures, il est assez facile à faire. Parce que imaginez que vous ayez fini de manger à 14 heures ou à 15 heures. Mmh. Eh bien, quand vous reprendrez votre petit déjeuner à 8 heures du matin, si vous êtes abstenu de dîner, vous avez fait un jeûne de 16 heures. Ou à l'inverse, si vous supprimez le repas du petit déjeuner, que vous mangez votre déjeuner, votre dîner, puis que vous attendez 16 heures avant de redéjeuner, vous avez fait un jeûne de 16 heures. Et c'est assez efficace.
Qu'est-ce que ça permet ?
Oui.
Qu'est-ce que ça permet,
ça permet d'améliorer le profil lipidique, ça veut dire les lipides qui circulent dans votre sang, et ça permet de mettre au repos la plupart des organes digestifs. Donc c'est relativement intéressant. Et on a remarqué d'ailleurs, il y a une étude récente qui vient de montrer aussi que le slogan qu'on nous a balancé pendant des années, le petit déjeuner, le meilleur repas, le repas le plus important de la journée, était une vraie bêtise.
Ah bon ?
C'était un slogan, ça vient d'être démontré. En fait, si vous n'avez pas envie d'en prendre, ne le prenez pas. Toutes les études concernant ce petit déjeuner avaient été sponsorisées par les fabricants de céréales du petit déjeuner.
On
vient de le savoir.
Ah bon, dommage. J'aime bien le petit déjeuner.
Oui, Eliane... vous avez le droit de le prendre, mais il n'y a pas d'obligation.
D'accord, ce n'est pas le menu le plus important de la journée.
Non, ce n'est pas du tout ça.
D'accord, petit déjeuner, pas forcément comme un roi. Eliane est avec nous depuis Châtillon au 3921. Le docteur Cohen vous écoute. Bonjour Eliane.
Bonjour.
Bonjour docteur, bonjour. Écoutez, je suis très timide de parler à la radio, moi. Voilà, je voulais savoir l'avis du docteur sur les gens qui mangent cru. Parce que j'ai une copine qui m'a dit, si tu manges cru, tu vas pouvoir maigrir.
Ah, intéressant, docteur Cohen, vous répondez.
Peut-être parce que c'est dégueulasse, en fait. Donc on mangera moins. Non, je plaisante,
vous parlez
Eliane.
Uniquement de crudité.
Les gens qui sont crudivores, les gens qui sont crudivores.
Et ils mangent quoi de cru ?
Alors, en fait,
c'est-à-dire que du poisson cru, que de la viande crue,
oui,
c'est ça ?
Oui, ils ne s'autorisent jamais la cuisson. Alors sur le plan nutritionnel, le seul avantage, je vais vous dire les inconvénients après, le seul avantage, ça serait qu'un aliment qui n'est pas cuit et qui n'a pas subi la chaleur, il garde la plupart de ses nutriments. Par exemple, quand vous cuisez un légume ou une viande, vous perdez des choses.
Ah, d'accord.
Mais l'inconvénient aujourd'hui, c'est quand même le risque alimentaire principal, c'est pas du tout les pesticides, c'est quand même les infestations microbiennes. Donc ça veut dire que manger cru, c'est s'exposer au risque d'une infection, et c'est pour ça qu'on a abandonné le manger cru. Ça rassure un peu les gens, parce qu'en période d'incertitude alimentaire, on a besoin de se rapprocher de la naturalité. Mais manger cru, c'est pas un conseil de nutritionniste. En tout cas, je vous assure, j'ai jamais vu personne maigrir avec ça, sauf que manger cru, franchement, essayer de manger du macro cru, vous allez voir, c'est moyen quand même. Hein.
Bon, vous discuterez un peu avec Eliane des recommandations du docteur. Le crudivorisme, Eliane, avec votre ami hein, qui est crudivore. Donc, merci beaucoup.
Voilà.
Ben voilà, votre timidité est altérée. Vous nous rappellerez demain, Eliane, sur un autre sujet. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliane. Anne nous écrit de Bouillargues au 3921. Ma fille est végétarienne. On vient de découvrir qu'elle avait un taux de potassium anormalement élevé. Que faut-il en penser ?
Alors, c'est rare d'avoir un taux de potassium élevé en cas de végétarisme, mais c'est possible dans la mesure où le potassium se trouve principalement dans les végétaux. Mmh. Il faut quand même faire attention.
Ça veut dire qu'elle en mange trop ?
Oui, ça veut dire qu'elle en mange trop. Le végétarisme en lui-même ne pose pas de problème aux nutritionnistes, parce qu'un végétarien va manger des protéines de lait ou des protéines d'œuf, qui sont des protéines relativement complètes. Le seul risque qu'il y a pour une petite fille, c'est le manque de fer. Le fer est quand même apporté par la viande. Donc dans ces cas-là, on supplémente simplement en produits qui contiennent du fer. Donc on augmente les légumineuses, on fait un peu de lentilles, un peu de pois chiches, un peu de haricots. Le végétarisme ne me dérange pas.
Ah bah je vois, parce que même vous allez faire plaisir à Bébé et puis à tous ceux qui sont végétariens en France, à Bardot. Ce mode alimentaire est réputé excellent pour la santé, car beaucoup moins toxique que le régime mixte. Et vous soulignez ça deux fois. Hein.
Alors,
mais ça peut être toxique en quoi ? Pour les enfants, vous en avez parlé ? En carence, enfin, toxique en carence.
Ça peut être, c'est rarement toxique. Ça peut être toxique dans la mesure où vous allez recompenser avec des produits un peu plus gras. Ça va
c'est
être
ça.
Le cas des végétaliens,
oui.
Avec les fruits secs, oléagineux, comme les noix, les noisettes. Toxique, il n'est pas toxique, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a tous tendance à diminuer la consommation de protéines animales.
C'est vrai, viande
tous.
Et poisson.
Uniquement parce que les protéines animales, elles peuvent abîmer en grand excès le rein. Et la deuxième chose, c'est parce que surtout, elles contiennent la plupart du temps des graisses saturées. Par exemple, la viande, c'est quand même un apport en graisse. Quand faite à l'époque des régimes protéinés. Bien sûr, il y avait beaucoup de protéines dans la viande, mais il y avait également beaucoup de graisse. Donc, on diminue à l'heure actuelle la consommation de protéines animales partout.
De viande aussi, parce que voilà, c'est philosophique, on ne veut pas manger d'animaux morts.
Ça, c'est le problème de l'éthique animale. Donc là, on rentre vraiment typiquement dans la problématique des végétaliens, parce qu'eux ne mangent pas uniquement pour des problèmes de santé comme un végétarien, parce que les végétariens, ils ont commencé à être végétariens pour des problèmes de santé. Ça a été le cas des vedettes américaines ou des présidents américains comme Clinton. Le type avait une maladie cardiaque. Bon, son médecin lui a conseillé d'être végétarien et c'est vrai que c'était meilleur pour ses artères.
Mais on peut faire le lien aujourd'hui entre viande rouge et des cancers type prostate, colon.
Complètement. Aujourd'hui, on a vraiment une règle immuable qui est ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine uniquement pour éviter les cancers du côlon et les maladies cardiovasculaires. Mmh. Mais ça, on ne le savait pas auparavant. Mais ça laisse quand même de la marge. Ce n'est pas une interdiction complète. 500 grammes de viande rouge par semaine, ça reste quand même 70 grammes par jour. Donc c'est à peu près correct en sachant qu'on ne mange pas de la viande tous les jours.
Si votre enfant ou votre ado refuse de manger de la viande rouge notamment, qu'est-ce qu'on fait quand on est parent? Parce que voilà, il veut être en phase avec une philosophie, ça existe de plus en plus.
Alors ça, ce n'est pas le problème qu'on me pose le plus souvent. Le problème qui me rend dingue, c'est les parents qui arrivent dans mon bureau et qui me disent « Mon enfant ne veut pas manger de légumes ». Et ça, c'est la question que tous les nutritionnistes se redoutent, ouais, parce qu'on connaît tous les recettes bidons qui ne marchent pas. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à mettre des légumes dans les pâtes, vous n'avez qu'à mettre un chipparmentier, mais les gosses, ils ne sont pas idiots, ils écartent les légumes quand même. En fait, la priorité chez l'enfant, c'est la croissance. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller à ce qu'il grandisse et à ce que son cerveau grossisse, etc. Donc la priorité chez les gosses, c'est les sucres lents. Donc quand ils mangent des pâtes, du riz, des gnocchis et autres plaisanteries comme ça, ou du pain, en fait, ça m'intéresse parce qu'ils arrivent à apprivoiser leur croissance. La consommation de viande rouge chez les enfants, elle n'est pas systématique. On s'en fiche. Manger du... La viande est un produit qui n'est pas intéressant finalement parce qu'il ne contient que des protéines, du fer et de la vitamine B12. C'est un produit assez pauvre en apport nutritionnel. Alors pour les protéines, ok, avant c'était vachement important, mais maintenant c'est plus tellement important dans la mesure où on a une variété alimentaire terrible. Si votre gosse préfère le poulet, le poisson, les œufs ou le fromage, allez-y, c'est aucun problème.
Jean-Michel Cohen est avec nous encore jusqu'à 11h. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Mieux manger pour les nuls, c'est le livre qu'il a publié il y a quelques jours aux éditions First. On parle du mieux manger, de l'alimentation la plus saine justement pour être en cohérence aussi, non seulement avec ses besoins mais avec sa philosophie. Le docteur Jean-Michel Cohen nous éclaire après les mots de Sanseverino. Oui, maigrir par exemple, alors c'est vrai que vous parlez des régimes stricto sensu, puis des régimes, on parlait du régime végétarien il y a un instant, le régime végétalien exclut les autres produits d'origine animale, donc pas seulement la viande, le poisson, mais aussi les œufs, le fromage, les yaourts. Que pensez-vous des parents qui imposent ce régime-là par éthique, régime vegan, comme on dit, à leurs enfants?
Alors, moi, je suis, par principe, je suis complètement opposé à ce qu'on mette à un régime végétalien, les enfants, parce qu'il y a un risque certain. Et donc, à partir du moment où il y a ce risque...
Carence en protéines.
Voilà, pas seulement, il y a une carence en beaucoup de choses. À partir du moment où il y a ce risque, le principe de précaution impose de ne pas mettre un enfant au régime végétalien, en tout cas jusqu'à l'âge de 11 ans, pour moi, et je crois que tous les pédiatres sont à peu près d'accord là-dessus. Peut-être qu'un jour, on démontrera que c'est possible à faire. À ce jour, je ne prendrai pas le risque. Les végétaliens, aujourd'hui, sont devenus des grands professionnels de l'alimentation. J'en fréquente pas mal. Et à partir du moment où ils complètent leur alimentation avec de la vitamine B12, c'est vraiment le seul produit qui leur manque. Et où ils savent croiser les protéines végétales de deux façons. En utilisant des protéines d'origine légumineuse, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, pois chiches, haricots, fèves, lentilles, avec des protéines issues des produits céréaliers comme des pâtes, du riz, de la semoule, ils arrivent à trouver une protéine d'à peu près bonne qualité qui fait qu'aujourd'hui, un végétalien peut très bien se débrouiller. Le seul coup de gueule que j'aurais à proposer, c'est de dire que les végétaliens, quand ils achètent des produits préparés en supermarché, comme je vois des galettes végétales, etc., ils se font complètement avoir parce que les produits en termes nutritionnels ne sont pas bons. Soit ils sont vraiment trop enrichis en graisse, soit pour les compacter, on va mettre des graisses très mauvaises pour la santé. Donc un végétalien, normalement, c'est quelqu'un qui prépare la cuisine chez lui et ils le font très bien. Et j'ai goûté des plats végétaliens, notamment une mousse au chocolat dans un restaurant parisien qui était faite avec de l'avocat, du cacao et un peu de sucre liquide. C'était juste génial. Donc on peut arriver à faire de la très bonne cuisine végétalienne.
Ah oui, moléculaire et chimiste. Hein. C'est
non,
assez étonnant.
Non, c'est pas moléculaire. C'était vraiment de l'avocat écrasé avec du cacao et avec du sucre liquide. Et on avait la consistance de la mousse au chocolat et le goût du chocolat. Donc, c'était une parfaite réussite.
C'est quoi le sucre liquide ?
Le sucre liquide, c'est ce que vous achetez soit sous forme de faux sucre liquide. Ce n'est pas des marques comme le Stevia, le Candérel liquide.
Oui, et ça, c'est bon ?
Et c'était très bon. Ouais.
Mais c'est bon pour la santé, ce sucre liquide-là ?
Bah, quand vous en mettez un peu, évidemment, pas à condition d'en mettre trop.
Ouais. Vous nous aidez justement à choisir les bons types de fromage, le bon lait, les aliments amis. On va parler des aliments qui soignent différents maux, d'ailleurs, des pathologies, notamment le syndrome du côlon irritable, mais aussi les rhumatismes. Vous pouvez privilégier un certain nombre d'aliments qui luttent contre les inflammations rhumatismales qui sont assez fréquentes dans
la
population.
Oui, alors là, récemment, on a beaucoup entendu parler de ces régimes alcalins ou acides, etc. En fait, c'est assez simple à comprendre. Tout ce qui est protéine est acide et tout ce qui est végétal est alcalin. Donc, ça veut dire que les régimes, par exemple, végétariens ou les régimes végétaliens sont bons pour les gens qui ont des problèmes d'articulation. Ça ne veut pas dire qu'on va guérir une arthrose avancée puisqu'il y a eu une destruction du cartilage, mais en tout cas, on va freiner l'évolution. Donc, c'est pas mal. Chez ces gens-là, c'est vraiment intéressant d'avoir une alimentation plutôt de type végétalien.
Avec le pain aux céréales, la pomme de terre, le porc, l'endive, le yaourt au soja, les herbes, épices. Bon, bah, vous enlevez le porc dans la liste pour les végétariens, mais voilà, qui lutte contre ce type d'inflammation. On va parler des maux de ventre chroniques. Mieux manger justement pour apaiser aussi, par exemple, ces ennuis du quotidien. C'est possible et c'est la recette que vous propose Dr Cohen dans ce livre « Mieux manger pour les nuls ». À tout de suite avec Julie.
Il y a quelqu'un
qui est très drôle.
Wendy me lit un truc.
Vous avez dit une phrase très drôle. C'est vrai que je ne l'avais pas relevé. Jean-Seb Desmarais nous dit, je cite Julie, on ne veut pas manger d'animaux morts. Non, Julie, ni manger d'animaux vivants d'ailleurs. Je n'avais pas fait attention
bon, allez,
à cette phrase. Vous êtes très écoutés. Vous êtes très écoutés. Mieux manger, oui, avec le docteur Cohen. Juste un petit tweet parce que nous y sommes sur le hashtag Europe 1. Les gamins qui achètent un kebab le midi, pour reprendre les propos de Jean-Michel Cohen, c'est pas par crainte d'avoir faim, mais pour le plaisir du gras entre potes. Ils prennent aussi un 4 heures si ça leur chante d'ailleurs. Oui.
Ah bon,
ça c'est une maman qui doit être désespérée qui part.
C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Ce qui est dit là, ils adorent, un, l'ambiance du kebab parce qu'ils sont entre eux. Deuxièmement, c'est pas cher. Troisièmement, c'est rassasiant. Et le goût du kebab, parce que c'est gras, en fait, on a un goût prononcé pour le gras. Ça leur fait plaisir, bien sûr.
Alors, dans votre livre, il y a un chapitre consacré aux aliments pour soigner. Oui. Des maux de ventre, par exemple.
Oui, parce que les choix alimentaires peuvent nous guider et nous apaiser, Jean-Michel Cohen.
Bah, en fait, on s'est rendu compte avec les années qu'on avait beaucoup plus de colopathie qu'auparavant, c'est-à-dire des gens qui ont des gonflements, des ballonnements après les repas ou tout le temps. C'est lié probablement à l'ensemble des substances qu'on avale, mais il y a des aliments qui sont meilleurs que d'autres. Et par exemple, pourquoi la mode des probiotiques à l'heure actuelle ? C'est parce que les probiotiques rétablissent une flore intestinale. Alors, on est obligé de les prendre à l'heure actuelle sous forme de gélules, simplement parce que les gens ont abandonné la consommation des yaourts les plus simples. Or, un yaourt, c'est un probiotique, dans la mesure où il a été ensemencé avec un micro-organisme. Donc, quand vous avez mal au ventre, en fait, il y a des règles de base avant de se jeter sur le sans gluten qui consistent à diminuer le plus possible les fibres sans les exclure complètement. Donc, ça veut dire que la règle, c'est de prendre des pains grillés, des pains rassis ou des biscottes, de manger les aliments sous forme de purée, notamment en compote pour les fruits et en purée pour les légumes. Et quand vous mangez des crudités, de les hacher très, très finement. Après, il y a des aliments qui sont vraiment prioritaires, comme par exemple les champignons, qui sont vraiment intéressants parce qu'ils ont une substance à l'intérieur qui permet de limiter notamment l'absorption des graisses et qui sont particulièrement digestes. Voilà des consignes qu'on donne aux gens. Et avant de prendre des médicaments, avant de se jeter sur des régimes d'exclusion comme le régime sans gluten, il faut d'abord essayer ça.
Oui, bah c'est ce que j'allais vous dire, parce que c'est très présent dans votre livre. En fait, mieux manger, ce n'est pas exclure des aliments. À partir du moment où il n'y a pas d'allergie ni d'intolérance, et on revient à votre idée initiale de la variation et de la variété des aliments, il faut tout essayer. Et parce que cette alchimie fait du bien. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas fan de yaourt, un yaourt ou deux par semaine, c'est pas mal.
Oui, oui, non, mais c'est important de le faire. Et bravo aux gens, notamment.
On adore.
Bravo aux gens qui les font eux-mêmes. C'était, il y a eu une période où les gens avaient acheté des yaourtières. C'était vraiment intelligent parce qu'ils fermentaient eux-mêmes leur yaourt. Et donc, ça fonctionnait. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que quand vous avez des maux de ventre, en général, c'est parce que vous avez absorber des substances qui viennent de l'environnement. Par exemple, la réduction du sel dans l'alimentation, tout le monde pense à l'hypertension. C'est pas seulement ça. Le sel, il abîme un peu les parois de l'intestin, il les rend perméables aux substances environnementales qui sont toxiques. Or, aujourd'hui, on sait que l'environnement, c'est 25% des cancers actuels. Donc, ça signifie qu'on est obligé de se protéger. Donc, quand on mange sans sel, on mange pas simplement pour l'hypertension artérielle, on diminue la consommation de sel, et donc on profite de quelque chose. Mais l'histoire du mieux manger, que je le dise bien, c'est pas mieux manger pour mieux manger, c'est mieux manger pour vivre plus longtemps en bonne santé. C'est uniquement ça.
Bah oui, parce que ça, c'est possible. Quand vous regardez notamment les régimes venus d'ailleurs, bon, le régime crétois, on va pas en reparler, hein, il a fait ses preuves, mais les régimes en Afrique ou en Asie qui consomment davantage de légumes verts, d'herbes, des céréales, qui exposent beaucoup moins les habitants aux problèmes cardiaques, qui sont
oui,
beaucoup plus connus
nous,
en Europe ou aux États-Unis.
On s'est jeté sur... Aujourd'hui, la mode, c'est d'acheter de la spiruline. En fait, ok, la spiruline...
C'est quoi la spiruline?
La spiruline, c'est un super aliment, c'est un micro-organisme qui est extrêmement riche en micronutriments, donc c'est un produit intéressant. Mais quand vous achetez du persil, de la menthe, du coriandre, toutes les herbes que vous pouvez imaginer, à l'intérieur de ces produits, et d'ailleurs la coloration le montre, les pigments que vous avez à l'intérieur vous montrent qu'il existe des micronutriments qui sont intéressants pour votre santé. Et en fait, quand vous faites ce mix de toutes ces choses, vous avez l'ensemble des produits dont vous avez besoin. Dans un aliment, vous avez entre 15 et 250 molécules et vous mangez en moyenne entre 15 et 20 aliments par jour, ça fait une combinaison incroyable. C'est celle qui va vous protéger.
Ce n'était qu'un petit tour de la question avec Jean-Michel Cohen sur le mieux manger pour vivre mieux. Voilà le credo aux éditions First Edition pour les nuls, 500 pages. Petite bible pour certains. Merci Jean-Michel d'être venu.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Sur Europe 1, votre
station. Un plaisir de retrouver la maison.
À demain ma chère Julie.
À demain Wendy.
Et merci de votre fidélité les amis.